n'empêche pas les autres de manger. Et en termes militants, je dirais, ces questions-là, moi je le ressens très très fortement, au point que, jusqu'à très récemment, je l'avais intériorisé. J'ai l'impression qu'on est un peu tous à l'avoir intériorisé, c'est-à-dire que soit on parle de choses très précises, je sais pas, le foie gras, l'expérimentation de les cosmétiques, on dit ça pour interdire, on est très clair. Soit on parle de la viande, et là tout de suite ça devient un peu plus flou, on dit voilà, la viande, il y a des problèmes, regarde les abattoirs, c'est moche, moi j'en mange pas, toi aussi tu devrais réfléchir, etc. Et on passe d'un mode où, dans le premier cas, on est dans une revendication politique, on demande d'interdire que ce soit imposé. Et dans le deuxième cas, on est finalement de l'ordre de nouveau nous-mêmes, de la préférence personnelle, ce qu'on essaye de la passer à quelqu'un d'autre et de lui dire ben, et la même préférence personnelle que moi qui est de ne pas tuer les animaux passe à ton voisin, mais on n'est plus dans l'ordre de la revendication politique. Alors il y a eu quand même une évolution faite pour moi un peu similaire qui s'est produite, c'est par rapport au végétarisme pour les animaux. C'est-à-dire qu'auparavant, et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je pense, moi ça fait pas très longtemps que je suis végétarien, j'ai pas une grande histoire là-dessus, mais il semble assez clair que de se dire végétarien pour les animaux c'était un truc qui était assez difficile, que du coup gros personne faisait, alors que la majorité était végétarien pour les animaux déjà, et qu'on trouvait tout un tas d'autres raisons qui passaient mieux socialement, qui était en gros le fait de pas imposer l'idée aux autres, si c'est pour sa santé, c'est pour soi-même. Bon. À partir du moment où on commence à dire qu'on est végétarien pour les animaux, c'est là où ça commence à s'imposer un peu aussi aux autres, quoi, puisque c'est les animaux qui sont concernés. Et qu'il y a déjà eu une grosse évolution en très peu de temps parmi nous, quoi, parmi les militants, sur le fait qu'on ose le dire maintenant qu'on est végétarien pour les animaux. Et il y a des choses qui ont aidé à ce que ça évolue là-dessus, quoi. Et moi, j'ai l'impression qu'on est aujourd'hui confronté au même problème sur la demande de l'abolition de la viande, ou d'une autre manière de formuler sur le fait qu'on demande qu'il soit interdit de tuer les animaux quand c'est pas nécessaire, que la viande c'est pas nécessaire, et donc on doit arrêter de les tuer pour les manger, et que ça doit s'appliquer à tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'ose pas dire encore, qu'on n'ose pas dire à la fois déjà dans des discussions individuelles, et qu'on n'ose pas dire, qu'on ne dit pas du tout, ou presque pas, c'est quasiment pas audible, d'un point de vue d'un mouvement, quoi. Il n'y a pas aujourd'hui une campagne visible, claire, qui demande l'abolition de la viande, qui demande l'interdiction de tuer les animaux sans nécessité, en rappelant qu'il n'est pas nécessaire de les tuer pour... qu'il n'est pas nécessaire de les tuer. Et je pense que là, pour faire un peu le rapport avec l'abolition de l'esclavage des humains, on est un peu confronté au fait qu'il manque aujourd'hui au mouvement un objectif clair sur lequel... certes qui n'est pas immédiat, je ne crois pas que ça va se produire dans les quelques mois, dans les quelques années, mais ça peut se produire dans l'ordre de plusieurs décennies de mon point de vue, et ça peut se produire dans un temps pas si éloigné, dans certaines villes, dans certaines régions, dans certains pays qui ne seront pas la France pour commencer, qu'effectivement ce soit aboli. On voit déjà des choses qui se passent en Inde, on en a discuté parfois, et que le problème de si l'abolition de l'esclavage avait été formulée juste comme quelque chose de il faut abolir les fers, il faut interdire de battre, il ne faut pas travailler plus de tant d'heures, etc. Y compris avec des choses qui sont vraiment des abolitions, par exemple interdire l'esclavage des enfants, qui aurait été une abolition claire, quoi. Enfin, à un moment donné, il y a eu un objectif qui a été proposé à tout le monde dans ce mouvement-là, c'était abolir l'esclavage. Et à la limite, même si on regarde, peut-être que le fait d'être esclave, c'est-à-dire le fait de ne pas d'appartenir à quelqu'un d'autre, c'est pas la pire forme qui puisse arriver à quelqu'un. C'est-à-dire qu'effectivement, si on est bien traité en étant propriété de quelqu'un d'autre, c'est mieux que de ne pas être la propriété de quelqu'un d'autre et d'être maltraité dans son emploi ou sur d'autres formes de servitude. Bon. Et pourtant, le fait d'avoir formulé cette demande politique extrêmement claire, qui pouvait aboutir à une discussion, à un débat public, à la fin de la vote d'une loi, et le fait que les choses soient appliquées concrètement, ça a permis de coaliser un ensemble de forces qui n'étaient pas nécessairement d'accord sur diverses raisons, qui étaient plus ou moins racistes ou pas, qui pensaient que telle forme de travail pouvait être permise, telle forme d'esclavage pas d'autre, mais ça a permis de coaliser. Et donc ce que je voulais dire, c'était le dernier point, c'est que je pense que on se trompe quand on pense que l'opinion publique est hostile à cette idée-là. C'est-à-dire qu'on pense qu'en gros, il y a en France, je ne sais pas, 0,5%, 1% de végétariens qui n'osent déjà même pas eux-mêmes penser qu'ils veulent demander l'abolition de la viande, et que tout le reste, ce sont des gens qui sont militants pour la viande et qui vont se battre pour la garder. En fait, je pense qu'il y a des gens qui vont se battre pour la garder, et qui sont prêts à se battre durement, éventuellement violemment, ce sont des gens qui ont des intérêts économiques dedans. Mais déjà, il faut voir que les gens qui ont des intérêts économiques directs dans la viande sont démographiquement en train de s'écrouler. C'est en déclin très très fort, ne serait-ce que par le déclin du poids de l'agriculture dans l'économie. Et que le reste de la population il est dans une situation où, en gros, c'est pas tant qu'il veut absolument manger de la viande et des animaux, ils ne veulent pas manger des animaux. Enfin, moi, je regarde autour de moi, je vois ma mère, ma sœur, enfin, ils mangent des animaux, ils mangent de la viande, mais c'est pas pour manger des animaux. Ils le font pas pour affirmer leur humanisme, plus que ça, c'est peut-être un peu dans le fond, mais c'est qu'ils veulent que ce ne soit pas compliqué quand ils font leur course, c'est que ils veulent manger des choses qui soient bonnes, ils veulent aussi surtout être sûrs de ne pas prendre des risques avec leur santé. Il y a encore cette idée qui est très très forte, qui existent, et puis surtout je pense ils veulent pas faire un truc qui soit trop en dehors de la norme et qu'on leur oppose tous les arguments qu'on nous oppose à nous, qui sont pas simples à gérer. Quand on mange et qu'on dit qu'on mange pas les animaux, c'est compliqué et c'est pas n'importe qui est capable comme ça du jour au lendemain d'arriver à tenir ça, d'avoir les arguments, etc., et surtout d'avoir envie de subir ça à chaque fois. Et moi je pense donc que la majorité de la population, est-ce que c'est 50, 90 entre les deux, je pense quelque part, sont pas des militants de la viande et sont pas opposés à l'idée qu'on arrête de manger de la viande si c'est simple de ne plus en manger. Simple au supermarché, mais simple en termes de réprobation sociale. Et que, voilà, et que si nous-mêmes, on ne croit pas, c'est sûr que ça ne va pas avancer. Donc moi, ce que j'ai envie de faire progresser, c'est qu'on se donne cet objectif et qu'il y ait réellement une campagne, mais qui durera 100 ans, quoi, et qui devienne quelque chose d'un objectif mondial, qui soit qu'on demande explicitement l'interdiction de tuer les animaux sans nécessité, ce qui veut dire qu'on arrête, bon, effectivement, la corrida, c'est déjà clair, c'est un alinéa qui dit qu'on ne doit pas les tuer sans nécessité dans la loi, sauf pour la corrida, donc c'est déjà clair.
Il y a des combats
de coqs sont dedans, donc il y a la chasse, on va dire au moins la chasse de loisirs, puisque personne ne discute que c'est une nécessité, une forme de chasse qui est... Où ça peut être discuté, ou certains discutent en tout cas. Et puis la viande. Donc le gros truc, c'est quand même la viande. C'est, il commence à être reconnu depuis maintenant, en fait, même officiellement, c'est assez récent, que le végétarisme n'est pas une nécessité, puisque dans le programme national Nutrition Santé, qui est issu en particulier du ministère de l'Agriculture et d'autres instances nationales, il n'est pas nécessaire de manger de la viande pour être en bonne santé. Ça c'est reconnu, mais c'est récent. Et donc maintenant, quand on confronte ça et qu'on confronte la loi qui interdit tuer les animaux sans nécessité, aujourd'hui, les abattoirs sont illégaux. Je veux dire, si on confronte deux positions officielles, voilà. Et donc, j'ai envie qu'on démarre une campagne qui soit en fait un mouvement et qui durera, je sais pas, 100 ans et qui soit mondial, qui demande ça. Je veux dire, même PITA ne demande pas. PITA ne demande pas l'interdiction de la viande. Ils disent que c'est mal de manger, mais ils le demandent pas, quoi. Et donc les seules personnes qui le demandent aujourd'hui sont des individus, des collectifs qui le demandent, des revues, cahiers antispécistes par exemple, mais qui le demandent, qui en expliquent l'argumentation, mais c'est pas une campagne, ou alors des groupes qui existent et qui sont soit mouvements plus anarchistes ou d'autres types de positions politiques qui sont pas audibles aujourd'hui dans la société malheureusement, et qui du coup sont pas entendus, quoi. Un peu ça me rappelle moi les Quakers qui disaient depuis 200 ans qu'il fallait abolir l'esclavage mais qui n'étaient pas audibles parce que les Quakers ils étaient trop en dehors de la société. Donc on n'aura pas aboli le spécisme quand on aura fait ça, il y aura encore d'énormes souffrances et d'exploitation animale, mais je pense qu'on aura fait au moins un pas. Donc c'est pas l'antispécisme dans la société, c'est quelque chose de finalement plus simple. Donc juste à ce titre-là, j'ai écrit un petit document, pour ceux que ça intéresse, il y a 4 pages là, qui exposent un peu ce que j'ai dit là, et qui rappelle un sondage qui a été fait par le ministère de l'Agriculture sur le fait que les Français finalement assez majoritairement sont des animaux de nécessité, quoi. Donc, pas mal de temps. Je distribue à ceux qui donnent des exemples.
Alors,
Nathalie.
Oui, c'est
moi, je voudrais réagir sur cette idée. Je pense qu'il y a une confusion il n'est pas nécessaire de manger de la viande. Il est nécessaire de manger des trucs d'animaux, peut-être pas tous, parce qu'on est tous différents, on est des individus, donc on ne fonctionne pas tous de la même façon. Je pense que, j'ai vu aussi des gens qui m'ont dit qu'ils ont été parentés en 2012. Donc c'est pas sérieux de passer légèrement sur cette question. Alors je sais pas, peut-être toi tu suis concrètement la différence entre végétarisme et végétalisme. Je sais pas. Ici il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas concrètement, qui sont pas concrètement. Et moi, je veux réformer mon alimentation, très récemment en fait, et j'ai cette idée, tranquillement, voilà, je peux continuer à produire d'animaux. Donc pour moi, c'est une chose qui est pas liste, mais c'est pas une idée, enfin voilà, pour moi, personnellement, c'est comme ça. Mais voilà, je dois poser la question, Donc, suis pas très rassurée en fait par le fait que ce soit un peu compliqué cette question-là, que l'argumentation se pose sur que de toute façon on n'a pas besoin de ce qui, enfin,
de toute façon.
De toute façon, on n'en a pas besoin.
Mais on devrait voir quoi les carrosses.
Prendre les tours de parole, c'est
parce qu'on peut prendre
les tours de parole.
Oui, voilà, des
compliments,
oui.
Ah, ben voilà. Oui, mais il faut faire la
formation,
quoi.
Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Quoi, on va dire, oh non, de toute façon, même ça fait partie de l'argumentation du certain, ça veut dire de toute façon, on n'a pas besoin. Peut-être aussi certains n'ont pas besoin, parce qu'on est peut-être aussi différents de.
Mais ça dépend comment tu nourris. Enfin, quand tu manges de la viande, si tu manges n'importe quoi, tu auras besoin de prendre des cachets. Si t'es végétalien, tu manges n'importe quoi, t'auras pas de problème.
Oui, mais moi je suis déjà dans une démarche dans mon alimentation qui est.
Mais si tu fais attention à ce que tu manges en étant végétalien, je pense pas que. À moins que tu aies déjà des problèmes toi-même. Parce que par exemple, les femmes sont 40% sans anxiété. Et c'est pas la même chose pour les femmes.
Les femmes sont pas. Enfin, c'est
physiologique. Oui, non, mais pas.
On appelle ça rentre parfois des variations.
Oui, mais voilà, justement, il faut voir. Moi, je n'ai pas. Je pense que c'est vraiment au niveau de la qualité de l'alimentation, quel que soit ton régime alimentaire. Parce que les gens qui bouffent de la viande à longueur de temps, ils sont tous carencés.
Non mais ça d'accord,
mais ça en mange comme pas. Si c'était normal, parce qu'ils mangent comme tout le monde. Et je pense que c'est juste une question de qualité de.
Oui, mais moi j'ai rencontré ici des personnes qui m'ont dit qu'elles ont été carencées en vitamine B12.
Ah, moi j'ai rencontré des gens qui étaient carencés en vitamine B12 en étant végétalien.
Toi, tu penses qu'en étant végétalien et en ayant une alimentation, un certain type d'alimentation, il n'y a même pas lieu de prendre des comprimés.
Non, je peux prendre des comprimés.
Prendre des comprimés, pour moi, ça fait partie de l'alimentation.
D'accord.
Ah, c'est un problème alimentaire. Oui, oui.
Ouais,
si, de toute façon, moi j'en prends de façon préventive. Ouais. C'est-à-dire que je préfère en prendre plutôt que. Mais c'est pas. Enfin, moi, ce qui me gêne un peu, c'est de considérer que les gens qui ont de la viande n'auraient pas de carence, c'est... alors que nous, on resterait dans la viande.
C'est-à-dire que dans une recherche d'une alimentation de plus proche de ma physiologie à moi, moi, il y avait des produits animaux qui étaient inclus en petite quantité, à tort ou à raison, je pense assez bon, mais bon, j'en ressentais la nécessité de quand même la hausse, très loin de celui qui mange de la viande une fois.
Pour finir, parce que justement, c'est vrai que moi, quand j'ai tendance à quand je fais des tables de presse, les gens, je leur disais, c'est aussi peu dangereux de manger de la viande que d'être végétalien. Mais c'est un discours un peu. C'est pas très clair, parce qu'en fait, ça veut dire. Moi, je considère que quand tu manges de la viande, tu risques d'avoir des carences, et que quand tu es végétalien, si tu fais pas attention, tu vas avoir des carences. Donc, je disais, c'est. Il peut y avoir autant de problèmes, mais j'essaie d'esquiver un peu justement l'histoire des carences. C'est vrai qu'à ce niveau-là, je suis peut-être pas très honnête. C'est-à-dire que je disais, si tu fais pas attention que tu manges la même chose, tu n'auras pas plus de risque d'avoir des carences si tu es végétalien et que tu manges pas que si tu manges que de la viande et que tu manges pas des légumes. Donc c'est vrai que c'est un peu.
Alors, Antoine, tu as dû garder un. Moi, je ne disais pas que le régime végétalien n'a pas besoin de B12. Oui, il en faut. Mais c'est juste qu'il n'est pas nécessaire de manger de la viande pour être en bonne santé. On peut être par exemple végétalien avec de la B12.
Ouais, c'est important de préciser ça quand même.
Oui, oui.
Enfin, je pense que s'il y a une évolution, le succès de cette campagne, ça implique que les gens y prennent conscience. Je pose la question, qu'est-ce qu'il y aura besoin quand on aura un régime végétalien. Je pense qu'effectivement, il y aura un petit hic, parce que dire il ne faut pas abattre les animaux, les gens ils diront ah oui, mais c'est un petit peu soit végétalien, parce qu'on ne peut pas élever des animaux juste pour le lait et pour les œufs, il faut quand même les tuer. Donc là, il y aura un passage un peu difficile, ça implique effectivement dans les faits le végétalisme, ce qui est moins reconnu, je dirais aujourd'hui, par les autorités en France comme étant quelque chose de faisable. Mais je pense que les gens, assez facilement, on peut argumenter que c'est tout à fait faisable. Qu'effectivement, il y a ce problème de B12, mais déjà, il y a de la B12 dans les cornflakes, il y a de la B12 dans les multifruits, multivitaminés, machin, et que ça peut très bien se généraliser. De la même façon qu'en France, le sel qui est vendu est toujours vendu iodé, presque toujours, iodé et fluoré. Bon, ben, on pourrait rajouter d'autres trucs si on voulait par rapport à. par rapport à ça, pour combler toutes les carences que les gens ils ont aujourd'hui. Mais je veux dire, il y a une politique de santé publique qui fait que le sel est vendu iodé. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas une politique de santé publique pour faire que les cornflakes ils soient toujours avec des doses. Enfin, pas que les cornflakes, parce que les gens, enfin, aussi des chococrips et puis aussi des. Enfin, non, mais voilà, quand on généralise un petit peu la supplémentation de la B12 dans l'alimentation, ce serait pas. Enfin, ça n'a rien d'extraordinaire au niveau d'une politique sanitaire dans un pays. L'iode, c'est pour éviter des carences graves qui peuvent se produire chez des gens. Le crétinisme, c'est une croissance où les gens ils manquent de iode. Et les crétins, le terme crétin médicalement, c'est des gens qui ont un développement. Qui sont attardés mentaux par manque d'iode et de croissance. Et c'est une maladie qui n'était pas rare en France dans certains endroits. Donc, la B12, ça ne me paraît pas plus extraordinaire que ça. Quoi. Enfin, ça ne me paraît certainement pas un vrai obstacle à la campagne. Ça sera forcément à un moment quelque chose qu'on nous opposera, mais ça ne me paraît certainement pas une raison pour ne pas aller de l'avant. Enfin, moi, je trouve que. Enfin, moi, j'ai le sentiment depuis que quand on a sorti cette idée de son chapeau, j'ai le sentiment aussi de vivre un peu des moments historiques, quoi, par rapport à cette idée de lancer une campagne pour l'abolition de la viande, dont je suis vraiment content. Enfin, j'imaginais pas que ça puisse se produire en un temps, peut-être pas dans ma vie, mais peut-être dans celle de certaines personnes ici, et que c'est vraiment c'est fantastique, et que effectivement. Tant qu'on restait bloqué sur l'idée qu'il fallait d'abord convaincre les gens d'être antispécistes et ensuite que la viande serait abolie comme conséquence de ça, ça ne pouvait pas très bien marcher. Donc la comparaison avec l'esclavage, avec l'abolition de l'esclavage, est extrêmement significative à ce niveau-là. Ce qui n'empêche pas que l'antiracisme ait eu son rôle dans l'abolition de l'esclavage. Je pense que, de la même façon que l'antispécisme est une idée importante dans le tableau, mais il ne faut pas attendre que. Ben, je pense que le fait d'en faire une revendication politique, parce que justement, une idée ne devrait pas être une revendication politique d'une certaine façon. Ben, pour prendre la suite de ce que je disais ce matin, j'en fiche que tout le monde soit antispéciste, quoi. C'est-à-dire, je m'en fiche que mes chats soient antispécistes, je ne leur donne pas à bouffer de la viande, et puis c'est ce qui me suffit, quoi.
Yves. Non, c'est bon. Seb. Juste par rapport à ce que tu as expliqué, là, c'était plus une description de comment fonctionnaient les uns les autres avec des idées, avec nos croyances, pour les connaître en tant que vraies croyances, une logique et pas dans l'état d'esprit de quelqu'un qui est aussi la ligne, enfin des choses qui sont des machistes comme nous, une croyance en raison à une logique, ils se croient, etc. Et on a des conflits de. On arrive à des situations effectivement conflictuelles, mais chacun a l'impression d'avoir d'être dans sa vérité universelle par rapport à ce que nous sommes moins que nous sommes plus de son subjectivité, de sa personne. Et par contre, les conclusions que tu as données, je les trouve. Enfin, je pense qu'on pourrait aller. Je n'ai pas les mêmes conclusions, enfin, les mêmes ce que tu disais à la fin, histoire de que finalement. L'attitude qu'on devrait avoir, c'est une attitude de. Bon, on reconnaît qu'il y a cette différence et qu'il y a des gens qui pensent différemment, qui n'ont pas forcément style. Et ça, je suis tout à fait OK. Mais la conclusion, ce ne serait pas tellement de sourire, quoi. Je veux dire, de dire que finalement, peut-être que mes idées, elles ne sont pas vraies et que c'est l'autre qui a raison. On pourrait conclure ça, quoi, de ça. Et que. Par exemple, tu parlais de compromis, de chercher des compromis. Je trouve que le terme de compromis, il n'est pas juste. Après cette analyse, en fait, moi je pense que Campita, ils ont négocié avec une chaîne de restauration rapide pour que les poulets soient abattus, enfin, avec des conditions correctes, par exemple. Ils ne sont pas dans une recherche de compromis. C'est-à-dire que le compromis, sur le dos des animaux déjà. Et ici, il y a une question de stratégie. C'est-à-dire, ils ne vont pas renoncer. Je pense que tu pensais à ça. Hein. Je ne sais pas, quand tu te dis compromis, tu vas tomber dans ça. ils font pas un compromis en disant mais peut-être que effectivement si on les étourdit correctement c'est bon, enfin, on est ok avec cette idée là et que ça suffit finalement, mais on était un peu dans le faux, on fait pas tellement le conseiller moi dans le sens commun de notion de compromis, c'est justement qu'on lâche quelque chose de ce qu'on pense, c'est plutôt en termes d'analyse de stratégie qu'ils ont réalisé. Donc aussi ça vaut le coup d'être autour d'une table et de discussion et de dire que de mettre moins de pression sur une campagne, par exemple, si eux ils acceptent d'adopter telle ou telle méthode. Vraiment de l'ordre de la stratégie. Finalement, tout ce que tu as dit dans ton exposé, moi j'analyse comme ça, j'ai toujours cette idée depuis longtemps qu'on est toujours dans un rapport de force. Tout le temps, quoi que vous voulez dire. Tout à l'heure, c'est l'exemple du bateau. On est dans un rapport de force, qu'il soit physique, de capacité à argumenter, de convaincre l'autre personne. Et finalement, tout ce que tu as expliqué, je vois qu'il y a le fonctionnement du monde, il est que dans un rapport de force. Tout le temps, avec des rapports de force qui sont plus ou moins. On peut utiliser la force de façon plus ou moins. Il y a des forces qui vont avoir des conséquences plus ou moins néfastes sur la personne qu'on essaie de pouvoir, ou qu'on essaie de convaincre, ou qu'on essaie de réduire par la force. Hein, et que finalement, la conclusion, dans ce rapport de force aussi, il n'est pas forcément tout le temps de front. On n'est pas toujours sur les sujets, on n'a pas toujours des convictions qui sont en totale opposition. Sur l'histoire de est-ce que la piscine est ouverte mardi, mercredi, il y a moyen de dépasser ce conflit assez facilement. Il suffit d'être d'accord qu'on va aller téléphoner à la piscine et puis on va avoir une information qui fait qu'une des deux personnes, parce qu'il y a un temps de l'autre, parce qu'elle aura une information. Elle va se mettre à croire que l'autre, effectivement, elle est fermée mal. Et il y a plein de situations où les rapports de force ne sont pas conflictuels. Sur l'histoire de la viande, disait Antoine, s'il y a 1% de végétariens en France, ça ne veut pas dire qu'il y a 99% de gens qui sont militants contre le végétarisme, qui sont militants pour la viande. Donc on n'est pas, en tant que militant végétarien, on n'est pas dans un rapport justement conflictuel. Si on pousse. L'image, c'est qu'on n'est pas forcément dans des situations où on pousse les deux parties plus dans le sens de ça, mais des fois elles poussent comme ça. Et que finalement, il y a des situations, par exemple, prendre notre exemple sur l'euthanasie, le débat sur l'euthanasie, il y a des gens qui sont pour l'euthanasie, d'autres qui sont contre. Il y a des gens qui sont contre l'euthanasie parce qu'ils accordent une sacralisation à la vie, donc là on est un peu dans un rapport de force qui est difficile à dépasser. Et puis il y a des personnes qui sont contre l'euthanasie parce qu'ils ont l'impression que si on ouvre cette brèche-là, on va pouvoir envoyer la pente. L'argument que si on commence à autoriser le meurtre, mettre fin à des vies, ça va ouvrir un certain nombre de situations de pentes glissantes, quoi, où les gens qui ont intérêt à supprimer des personnes vont profiter de ce droit pour. Des meurtres, quoi, etc. Et que finalement, avec ces personnes-là, le débat pour l'euthanasie, il y a peut-être des solutions justement à dépasser, c'est-à-dire qu'accepter une euthanasie qui soit très encadrée. Enfin, je n'invente pas, parce que là, les gens vous savez, dans le débat d'euthanasie, c'est ce qui est en jeu. Quoi. C'est essayer d'accepter, il y a des pays qui l'ont déjà mis en place, qui mettent en place des euthanasies, mais qui sont très encadrées, qui permettent justement de dépasser les biais qu'on peut avoir avec l'ouverture totale de l'euthanasie. Sur les cantines, le fait que les collectivités vendent pas de plus vers le végétarien et en fait végétarien, il n'y a pas forcément une volonté d'être hostile par rapport au végétarisme, c'est qu'ils se disent, voilà, si on commence à faire des repas végétariens, demain ça va être des bidules qui n'aiment pas les frites, après ça va être ingérable, pratiquement, concrètement. Je pense qu'il y a aussi ça, l'idée des gens qui veulent interdire, qui ne veulent pas ouvrir le végétarisme dans les cantines scolaires. Ça aussi, c'est des situations conflictuelles qui sont un peu dépassées facilement en étant, je sais pas, par exemple, on va faire un test pendant 3 mois, etc., et voir si ça fait effectivement cet appel d'air. Les gens qui sont contre l'immigration, il y a des gens qui sont contre la fermeture des frontières parce qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde et que si on migration, ben, tous les gens vont venir dans les villes occidentaux, etc. Enfin, alors qu'il y a d'autres gens qui veulent absolument fermer les frontières pour des raisons. Le poisonnement des populations, enfin, tout comme ça. Je ne suis pas sûr que tous les gens qui veulent fermer les frontières soient au village de poisonnement des populations ou d'un pays massif.
Ça va pas pour moi. Mais je sais pas trop quoi dire, je sais que ma démarche, longtemps, elle a été tranquille, il fallait que je me muscle pendant toute cette vie. Et maintenant, je crois qu'il faut que je lâche prise sur quelque chose, que je lâche un truc. Donc ça va pour moi, dans le sens inverse de se muscler. Après, je saurais pas trop dire pourquoi, mais je pense que si j'en face de moi quelqu'un pour d'autres trucs qui essaye de me convaincre et que je sens musclé justement, moi j'ai mes protections quoi, qui peuvent pas, qui vont m'empêcher moi de. qui vont. Ça va pas le faire. Sur ce niveau-là, moi si je sens un muscle en face, je vais mettre un muscle aussi. Si je sens quelqu'un de super fluide, ben peut-être que je vais m'ouvrir un truc. Alors ça, c'est un peu barré, hein, c'est pas du tout scientifique hein, mon truc. Mais c'est, moi, ma démarche, elle est plutôt d'aller vers ça. Je sens qu'il faut que je lâche quelque chose. Et je sens que si moi je muscle envers l'autre, c'est peut-être un combat avec moi que je suis en train de mener, je sais pas. Si je lâche mon combat avec moi, l'autre il va lâcher. Je sais pas. Voilà. Je vous dirai ça dans 10 ans dans chaque ligne. Ça, c'est mon. Ma démarche est là.
J'aurais une bonne question parce que peut-être ça dépend de ce qu'on appelle se muscler, mais par exemple, est-ce que dans des discussions d'argumentation que tu as avec moi, tu mets cette barrière-là ou pas? Est-ce que tu sens ce que tu.
Tu vois, t'as rien à me prouver.
Le micro est ouvert.
Claire.
Tu vois.
Non, moi je te redis, Antoine, moi cette campagne, elle est utopique, mais s'il fallait se battre pour cette campagne, je le ferais, quoi. Parce que moi, je vis avec la France profonde. Je répète, la viande pour eux, c'est des jeunes, des vieux, c'est. Ils n'imaginent pas un repas sans viande. C'est. Alors, moi franchement, je ne sais pas comment convaincre ces gens-là. Enfin bon, on dirait que c'est la loi, on va faire passer la loi. Pourquoi pas? Je suis sceptique, mais bon, pourquoi pas. Mais en plus, tu évacues le problème. Là, j'ai lu en vitesse, en diagonale, mais tu parles même pas du problème religieux. Je veux dire, va dire à un musulman qu'on va l'empêcher de manger de la viande, et même un juif, en l'occurrence aussi. Enfin, mais pour eux, les animaux ont été faits pour ça, quoi. Quelle puissance, je veux dire. Et en plus, attends, juste quand on parlait du problème des cochons, des repas dans les cantines. Mais enfin, moi, ça me gêne qu'on demande du halal parce que l'animal, il est égorgé d'une façon cruelle. cachère aussi, quoi, je veux dire. Et enfin, moi, ça me pose problème, quoi.
Le but, c'est pas de demander du halal.
Hein?
Le but de la campagne n'est pas de demander du halal.
Enfin, je veux dire, toute cette... Enfin, toute cette puissance religieuse dont tu n'as pas parlé, je ne sais pas comment ils vont entendre ce discours, parce qu'eux, ils te diront que les animaux ont été faits pour ça. Enfin, moi je veux bien participer à cette campagne, tout ça, mais pour moi, ça me paraît fou, quoi. Mais peut-être que je me trompe complètement. Mais on n'évolue pas dans les mêmes milieux sociaux, en fait. Moi, je suis vraiment avec la France profonde, quoi. Et la France profonde, c'est 95% de la population.
Mais moi je suis allé à Casablanca,
c'est
pas mal aussi. Dominique, ouais, mais c'était pour répondre à Claire, je pense pas que cette campagne elle soit vraiment typique. Moi je l'accueille.
C'est une belle idée, hein, je dis pas.
Avec beaucoup de bonheur, et je suis sûr que. Enfin, j'ai l'impression que dans une dizaine d'années, ceux qui auront participé à ces estivales, et en tout cas. Ici avec cette personnalité de David et puis cette annonce de cette campagne contre la viande. Enfin, moi j'ai vraiment la sensation d'un virage là, qu'on est en train de prendre ici. Même si ça peut paraître utopique en termes de résultats concrets et à court terme, moi je pense que même si les personnes dont tu parles, Claire, enfin, moi je crois que c'est important de l'affirmer.
Oui,
cette campagne qui existe.
Oui.
Et puis pour ceux qui ne seraient pas d'accord, je voulais juste rappeler que la piscine ferme jeudi.
Non, mais je ne m'oppose pas. Enfin, juste pour dire que je ne m'oppose pas à ta campagne du tout. C'est une super belle idée. Mais pour moi, ça me paraît fou, quoi. Mais c'est une super belle idée, et s'il faut se battre pour ça, je me battrai avec joie avec pour cette campagne, tu vois. Mais ça me paraît fou.
Ouais, moi, c'est pour aussi raison à faire. Moi, je pense que de toute façon, déjà, si on est là, c'est qu'on est tous un peu fous. Et moi, je sais que pendant pas mal de temps, j'ai milité, et justement, j'étais dans un rapport, ça c'est plus pour Lucie, j'étais dans un rapport de force avec les gens. C'est-à-dire que j'allais vers les gens, leur verser des arguments, et souvent ça finissait que on s'engueulait, surtout que je suis pas un spécial, mais bon. Et en fait, j'ai un peu lâché. Pardon ?
Surtout,
je suis pas très calme, donc quand les gens sont de mauvaise foi devant moi, j'ai tendance à m'énerver. Et donc j'ai décidé de prendre un peu d'argent avec ça, parce que ça me fatiguait, et en fait, je côtoie des gens qui mangent de la viande. Et quand j'étais dans une logique argumentative, en fait, ces gens-là, ils mangeaient de la viande à côté de moi, on discutait, mais ils mangeaient de la viande. Depuis que j'ai décidé d'arrêter de leur prendre la tête, et ben, ils arrêtent de manger de la viande. Donc en fait, je pense que vraiment, enfin, c'est pas la compte. Moi, j'ai décidé de les arrêter de manger. Ça marche mieux.
Je
laisse les muscles.
Je sais pas comment tu fais, je me donner ton secret. Moi, j'ai l'impression que je lâche plus, c'est peut-être moi.
Il faut que tu vives ta vie en n'ayant rien à faire des autres. Et il faut être honnête avec toi-même, il faut être le plus honnête possible. Et il faut surtout jamais faire la lettre aux autres, parce que sinon tu braques. Tu es au milieu des gens et tu vis de façon complètement naturelle ce que tu es. Quoi. Et en fait, les gens, il faut pas croire qu'ils te regardent pas, ils vont t'observer. Les gens, ils arrêtent pas de. D'un seul coup, ils demandent ce que tu as dans ton assiette. Alors que toi, tu dis rien. Ou alors, tu décides, tiens, ce soir, on va faire un jeu, on va poser des questions aux gens, et il y en a un qui va poser la question, qu'est-ce que c'est un peu spécifique, enfin, je vais pas arrêter. Enfin, c'est que le fait d'être honnête et de faire des choses vraiment spontanément, enfin, je sais pas, les autres, ils voient que ça marche, ils voient que c'est quelque chose de bien, et ils y viennent de toute façon. Il ne faut pas croire que 95% de la population passe à manger de la viande, elle est belle et qu'elle ne va jamais changer. Quoi. Moi aussi, je côtoie la France profonde tous les jours et je veux dire qu'ils sont loin d'être belles. Hein. Et que justement, ils sont complètement désinformés. Quoi. Et que si tu vas les voir en ayant justement une démarche différente sans les prendre de haut, et ben, d'un seul coup, tu vas voir qu'ils vont te suivre.
J'aimerais bien te croire. J'aimerais bien
te
croire, je ne sais pas.
Yves. Moi, je suis sur France profonde.
pauvres et des gens qui en font partie.
Il y a quand même un rapport de entre les citadins et les citadins. Je suis regardé dans les manifestations de l'islam, ça va être juste un peu d'information que les amis qui voulaient voir à Paris du même temps. Le rapport des citadins très parisiens à la ruralité et à l'animal, en général, le rapport des ruraux, si on parle de la France.
Oui, mais ce que tu disais n'allait pas du tout à leur monde de ça.
ça. Ce que je disais dans mon exposé n'allait pas du tout à la rencontre de ça.
C'est exactement ce que tu disais.
Oui.
Oui, mais c'est ça que je disais quand je disais rapport de force. Enfin, c'est la reconnaissance de... La reconnaissance, il y a des conflits. Il y a des conceptions, des croyances qui emmènent des situations où les deux autres situations sont pas... On ne peut pas les dépasser, enfin, je veux dire, ce qu'on dit ou l'autre. Les deux en situation ne peuvent pas préexister en même temps. Pas à la fois tuer les animaux pour les manger et pas tuer les animaux pour les manger. C'est là que je parlais de rapport de force. Là, ça n'a rien à voir avec le truc de rentrer un rapport de force quand les gens viennent sur la table de presse, et de dire qu'est-ce que tu fais, tu manges la viande et tout. C'est pas du tout dans ce sens-là que je l'utilise, ce terme-là. L'expression rapport de force, c'est pas là. Et se muscler, c'était pas du tout non plus dans le sens où je vais voir comment je peux manipuler les masses, quoi. Je pense que là, dans la situation que j'ai eue, le fait que des gens, tu manges avec des gens, il se trouve que toi tu as envie que ces personnes deviennent végétariennes, et que la stratégie que tu trouvais qui fonctionnait le mieux, c'était de ne pas y aller frontalement. C'est-à-dire que ça fait partie d'une connaissance que tu as acquise de ces situations-là, de l'expérience que tu as vécue avec ces personnes. Le fait d'avoir vécu ces expériences et de les avoir analysées, ça fait partie du truc de se muscler, quoi. C'est-à-dire que ce qui marche le mieux, finalement, c'est de pas que les contre-réactions de quand tu argumentes, et peut-être à terme, c'est qu'il faut les faire à autre chose. Parce que c'est dans cette situation-là que je parlais de se muscler, c'est pas du tout... C'est-à-dire quand Yves discute avec les gens et qu'il a une côté très très sociale d'accueil et tout ça, que ce soit conscient ou pas conscient, c'est un truc qui marche, qui fonctionne. Quoi. C'est-à-dire que les gens, je ne dis pas que c'est forcément un calcul, quoi. Ils se trouvent que c'est une attitude qui porte ses fruits. C'est-à-dire les gens, il y a un dialogue qui est possible, etc. C'est une manière d'être qui, je ne sais pas si elle peut se travailler, mais qui est quelque chose qui a un rapport de force. De fait, Yves est dans une situation de vainqueur par rapport à ça. C'est-à-dire, si une personne mange de la viande et qu'il n'en mange pas, le fait qu'il a cette attitude d'accueil et tout ça, et que les gens, il fait douter les gens, il est dans une situation où il a été plus fort que la personne en face. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire passer ses convictions, ce qu'il pensait, il a réussi à mettre... en doute de l'autre personne. Si elle est vraiment dans ce sens-là, je pense que du coup, Yves est dans une position de domination par rapport à cette personne en ce moment-là, mais c'est pas une face, enfin, je veux dire, c'est pas un truc ni forcément conscient, pas conscient, ni mauvais, ni pas mauvais. Donc il a trouvé une attitude d'ouverture d'accueil qui permet justement de faire avancer les choses dans ce sens. Et alors l'autre truc, c'est par rapport à ce que tu disais, Claire. Je pense qu'il y a. Il y a des choses qui sont difficiles, le fait de remettre des normes sociales, évidemment, tout ça c'est hyper balèze. Surtout quand on est dans une certaine culture, enfin je sais pas, côté libertaire anarchiste, ou une culture d'opposition et tout, on a certaines normes. Il y a des normes de TF1 pour nous former, on arrive à les mettre en cause facilement. Enfin, si on ne pas un libertaire à côté, on va moins bien à mettre en cause. Mais ce que je vois, c'est quand il y a TF1, ils passent des images d'abattoirs ou machin. Au journal, il y a 7 millions de personnes, je pense que ça admet que c'est la France profonde qui va envoyer le journal TF1. Enfin, je pense que ça. Il y a des personnes, je définirais dans la France profonde qui regardent ce journal, hein, de 20h. Bah, quand les PDA ils présentent le truc, ils disent attention, les images sont choquantes et tout. Et je suis persuadé que les gens, effectivement, ils voient ces images comme des images choquantes. Et ils sont pas, par rapport à la souffrance des animaux qui va passer sur leur écran, ils sont pas à des lieux de quelqu'un qui a fait des études universitaires, je sais pas comment je m'en sais les touches, le truc de Koh-Lanta, l'histoire de la chaise, je sais pas si il n'y avait pas eu des réactions l'année dernière quand il y a eu un qui avait dit tout ça, je veux dire, il aurait scénarisé et la chaise aurait été. Justement, c'est pas évident, parce qu'il y a des gens qui vont dire c'est scandaleux, justement c'est scénarisé parce que les gens ils vont réagir devant le fait qu'il y ait une équipe qui menace de tuer cette chèvre, tu vois, en direct, les gens ils disent c'est tellement profond. correspond à une vision, quoi. Moi, je vis quand on a une main, j'avais intéressé des fenêtres que j'avais jamais vues, ou des trucs hein, sur un marché, qui sont en train de mourir pour enlever les organes, enfin, les trucs. Je voulais faire une expérience, je voulais montrer à l'homme qui t'apprend sur le point, parce que la personne ne réagit pas, elle est en train de faire la balle de l'action. Je suis à peu près à 80 ans, et dont la France profonde qui va réagir.
Je ne suis pas sûr de ça. Et en plus, les gens oublient.
Oui, oui, après, il y a d'autres choses, mais je pense qu'il y a quand même tout comme ce que tu disais, je pense que vous pouvez dire Antoine, quoi, sa maman, sa personne, tu sais, ils sont pas des militants contre les animaux. La plupart des personnes vont avoir une réaction par rapport à la souffrance des animaux, c'est comme ça qui est là, quoi. C'est un truc sur lequel on peut s'appuyer. Ça existe, ils arrivent très bien à se mettre à la place d'un animal. Tu leur montres des choses entre une coupée de carottes, et personne n'a pas. C'est comme ça, les gens. C'est dégueulasse, on va avoir des réactions. Les cassettes que je vous ai montrées là avant-hier, l'animatrice, j'ai vu les cassettes, c'est horrible. Mais comment il y a des, on peut faire ça? Comment il existe des salauds qui font ça? Mais comment on peut arrêter ce truc-là? Dans les voies, dans les images d'élevage.
Oui, j'ai trouvé
que c'est légal, est-ce que c'est pas légal, les réactions, ces réactions-là. Après, ils n'ont pas là forcément l'analyse. L'analyse, ils sont capables de l'avoir. Enfin, je veux dire, c'est je peux peut-être dire qu'à mi-temps, il y a des bus réellement assez simples. Enfin, c'est du simple, évidemment. Ils théorisent beaucoup, mais on n'a pas inventé la peau. Hein, on dit qu'on veut arrêter. Je ne sais pas si on peut pas tuer l'analyse. C'est hyper simple. Je pense qu'il y a au contraire un énorme travail de communication dans l'autre sens pour qu'on se mette cette distance. Les budgets pubs du CIV, les filières et tout, ils sont énormes. Et la déstabilisation de la viande, la distance qu'on met, c'est un budget énorme. Et on voit dans les analyses des crises alimentaires, tout ça, que les analyses, il y a des sondages qui sont faits, ils mettent un moyen énorme pour mettre cette distance des gens pour effacer ce qui vient de spontanément. Je crois que c'est plutôt eux qui ont du souci à se faire. Il faut tout le temps réinjecter cette distance, faire la propagande, mettre des cochons qui rigolent à l'entrée des boucheries. Tout le temps qu'ils aient recours à du marketing. Et le clivage aussi ville-campagne, la plupart des gens, je vous dis, ils vivent en ville, avec les seuls contacts qu'ils ont avec les animaux, c'est les animaux qu'ils ont. Et finalement, ils ont un contact avec, apparemment leur assiette, avec des animaux vivants qui vivent, tout ça, c'est des animaux domestiques. Donc ils ont plus, je pense qu'il y a la normalité, la banalité du mal. Tu vois, le fait, quand tu es à la campagne, tu vois tuer le cochon, tu vois qu'ils sont tout le temps attachés. J'ai vécu là, mon père avait des vaches tout le temps attachées. Ça m'a jamais choqué. Il a fallu que je fasse un travail inverse pour me rendre compte que le fait que les vaches sont attachées tout l'hiver, que les gros c'est des muselières, parce qu'ils nous fait de la paille, c'est pas bon. Il m'a fallu du temps pour déconstruire ça. Mais justement, les gens qui sont en ville, qui n'ont plus de contact avec leur chien, ils n'ont pas cet effet de la banalité du mal qui est là. Je trouve que c'est une chance énorme. Ils sont choqués par la mort, par la souffrance des animaux dans les élevages quand on leur montre. Je trouve qu'on est l'évolution de société qui, par certains côtés, assez favorables, qui sont interro, qui sont
Luc, par rapport à la ruralité, vraiment paysan, ça me paraît assez difficile dans des exceptions, les gens qui sont éleveurs et qui nous demandent. Ça paraît difficile de penser autant de mal de soi. C'est une rupture émotionnelle, ou alors je pense que s'il faisait quelqu'un qui ferait cette rupture-là, il en deviendrait activiste violent par conséquence.
Mais il y a pas mal d'exemples.
Il y a pas un exemple.
Il était éleveur de cochons, je crois pas.
Ouais.
De brebis. Je crois qu'il y en a d'autres.
Ouais. Vraiment.
facilement attendable, peut-être, si je me trompe, tant mieux, hein. Je ne suis pas contre. Mais par contre, moi, dans ma période de réflexion sur la question, en fait, c'est un peu comme toi, moi, enfant, j'étais confronté au bout de la maison, égorgé, au lapin, au machin. Enfin, ça ne me choquait pas. Je voyais totalement le lien entre ce que j'avais dans mon assiette et ce qui était vivant, et qu'il fallait le tuer. Voilà, enfin, ça faisait partie d'une espèce d'ordre naturel. Enfin, c'est pour ça que je pense que c'est important quand même à penser aussi. Et par contre, quand je me suis posé la question vraiment de mon rapport à l'animal et de mon rapport à la viande, qui était la conséquence première de cette réflexion-là, discuter avec les gens qui vraiment vivent au jour le jour avec les animaux de ferme, avec les éleveurs, discuter avec les éleveurs de ma famille ou des gens que j'ai rencontrés, discuter avec des chasseurs ou quoi. J'allais dire, ils m'ont presque autant convaincu que les végétariens qu'il fallait devenir, quoi. Parce que ils ont un blocage intellectuel, une incapacité, comme moi je l'appelle, de trouver anormal de tuer des animaux pour les manger. Mais par contre, quand ils parlent de leur relation à l'animal, de ce qu'ils ressentent, de comment ils les considèrent, que ce soit les chasseurs ou les éleveurs, je me suis dit, c'est pas possible de tuer des animaux comme ça, quoi. Avec qui on peut avoir ce genre de relation que moi j'avais pas éprouvé. Et je pense qu'à certains moments, le fait de rendre possible le végétarisme, ça peut aussi, peut-être, sans les concerner directement, faire réfléchir leurs enfants, faire réfléchir leur entourage. J'ai entendu plusieurs cas de gens qui disent qui élèvent par exemple des lapins, des machins comme ça, quand c'était pas possible. Quand le camion arrive pour les emmener à l'abattoir, la femme du paysan qui pleure à chaque fois. Mais c'est tous les ans pareil. Je me dis, mais pourquoi vous continuez? Mais c'est pas possible, ils sont une espèce d'atavisme, ils peuvent pas. Par contre, leurs enfants, donc maintenant on va pas en mais déjà assez jeunes, du fait de voir leur mère pleurer, ils ne mangent pas de la pain, ils ne peuvent pas. D'un côté, ils sont sur un blocage affectif, ils ne vont pas empêcher, ils ne vont pas discuter avec leur père et leur mère, les empêcher de lapin, mais en même temps ils sont dans une évidence qu'ils ne doivent pas faire ça. Et je pense qu'il y a aussi un travail là-dessus à faire, c'est qu'en ayant une discussion claire, en leur posant des questions plutôt qu'en affirmant autre chose, on arrive parfois à des résultats vraiment étonnants. J'en ai entendu un autre, pareil, il avait un éleveur de chèvres, c'était des chèvres laitières. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas de sensibilité pour les chevaux qui envoyaient direct dans les chevaux pour dire c'est qui ça, un camion ou qui va être mon chien, mais ces chèvres avec qui il avait un vécu, au début de son exploitation, il les envoyait à l'écarissage quand ils étaient trouvés avec plus suite de troupeaux. Maintenant, alors qu'il ne peut plus, il préfère les tuer lui-même, quoi, quand elles sont vraiment vieillissantes et sous forme d'euthanasie quelque part. On ne peut pas imaginer qu'il va envoyer ces chèvres avec qui il a vécu tout le temps. Il y a plein d'exemples comme ça. Je pense qu'il y a un apport intéressant à ce niveau-là quand on fait la discussion de la part des gens qui vivent avec nous.
Eric ?
Je voudrais revenir sur la France d'en bas, entre guillemets, qui est un peu spécial qui n'ont pas trouvé d'autres pour en passer. Et donc, j'ai travaillé en intérim, je fréquente pas mal le milieu des chantiers. Et ben là, c'est vraiment la France profonde. De la France profonde aussi, à ce niveau-là, où vraiment c'est un degré de culture et intellectuel zéro, vraiment zéro, impressionnant et à faire peur, et où l'obsession c'est la nourriture, et notamment manger de la viande, c'est vraiment que ça, quoi, qui occupe leur intellect, c'est manger de la viande.
Le matin,
ils parlent de ce qu'ils vont manger à midi, ils parlent de ce qu'ils ont mangé il y a 15 jours, et c'est dans ça, il n'y a que ça. Ils sont bestiaux, j'ai vu en chef de chantier, quand ils mangeaient comme ça, en faisant du bruit comme ça. Quoi. Je me demandais s'ils étaient exprès ou quoi, mais non, ils ne se rendaient même pas compte. Par exemple, un jour dans des fouilles, il y avait un rat d'égout, et le bon matin, il voulait le tuer. Heureusement, il y en a un qui a pris l'appel et qui l'a tiré, et moi j'étais plus content. longtemps et je me suis fait arrêter ma mission intérim à cause de ça, parce que le chef de chantier n'a pas supporté, ça l'a stressé pendant tout le repas, donc je n'étais pas là, on l'a dit après, pendant tout le repas, il dit, voilà, lui il dit, même pas quand tu l'auras, il dit, même pas quand tu l'auras, ça m'a fait tourner la carte et je me suis fait tirer de ma mission. Et mon dernier exemple aussi que je voudrais citer, j'avais un patron en maçonnerie, il y en a qui connaissent cet exemple, j'ai dit sur la liste. Et en fait, il avait commandé une pintade, on bossait tous les deux. Et il avait commandé une pintade et moi ça m'a carrément énervé, donc j'ai eu un rapport un peu musclé avec lui. J'ai dit ouais, mais c'est dégueulasse, tu sais comment on les tue les pintades, tu sais comment on les tue dans les fermes, elles sont mortes par pendaison pour la viande.
Peut-être alliance végétarienne, peut-être. Moi, je vois pas. Déjà, je me rappelle Ghislain l'année dernière, encore, qui disait que ce n'était pas audible de parler de végétarisme, où il a fait un petit peu des efforts. Moi, franchement, je ne crois pas qu'une association animale te soutiendra, je ne crois pas. Enfin, j'aimerais bien savoir comment tu vois cette mise en place de campagne, des moyens, tout ça.
C'est moi ?
Non, c'est à Lucie.
Moi, si je transpose un truc, par exemple, si quelqu'un est en train de me prendre la tête parce que j'achète des fringues faites en Chine, je crois que je vais bloquer. Parce que j'achète des fringues faites en Chine, je ne sais pas, des objets. Je pense que je suis comme des gens qui sont sensibles aux trucs animaux, mais qui n'arrivent pas à tout bien. Je me pose question, hein, je ne fais pas chier à regarder d'où ça vient. Mais c'est un vrai problème éthique et je ne fais pas gaffe à ça. Et si un jour c'est interdit, je pense que ça m'arrangera bien. Ça interdit collectivement, et ben je ne lutterai pas contre, je serai contente. Donc je pense qu'il y a une partie des gens, voilà, je suis d'accord avec ce que tu as dit sur toute la communauté politique. Après, moi perso, c'est deux énergies différentes, et si voilà, je ne vais pas le mettre sur les deux tableaux. Je suis contente qu'il y ait des gens qui fassent pour les deux.
Moi, je voulais juste attendre un moment, c'est ça qui est en débat, mais qui n'est pas tout aux heures.
Il y avait Antoine et Isabelle qui voulaient parler, et puis après moi.
Je ne vais pas spécialement parler, mais je vais répondre à la question claire en tout cas. D'abord, avant de voir une campagne, je vois d'abord l'expression de cet objectif, quoi, c'est-à-dire de le dire déjà au sein du mouvement et de le faire connaître, quoi, avant même que ce soit tout aspect de campagne organisé ou pas. Quoi. C'est déjà le fait de soumettre à la discussion, comme on le fait ici, mais dans des cercles beaucoup plus larges. Ensuite, je ne crois pas que ça doit... En fait, ta question, pour moi, je n'ai pas de réponse. C'est-à-dire que ça ne doit pas être une campagne qui est menée comme l'est, je ne sais pas, la campagne Stop Gavage, par exemple. C'est pas une campagne. C'est en fait, les mots, ils sont tout de suite malvenus. Je l'ai pris un peu exprès pour concrétiser les choses, mais c'est en fait... l'expression de l'objectif du mouvement animaliste, quoi, pour moi. D'une première étape de ce mouvement-là, mais la première grosse étape, et c'est l'expression de ça, c'est-à-dire qu'en fait, tu parlais des autres associations, personne ne va soutenir, ce qui va surtout leur arriver d'abord, c'est qu'ils vont devoir se positionner par rapport à ça. Le premier but, ça serait que ce soit formulé de manière suffisamment claire et forte pour que, déjà au sein du mouvement, chacun doive se positionner par rapport à ça, et dire s'il soutient ou ne soutient pas. Et le premier succès de cette campagne, ce serait que les diverses associations, mouvements, groupes, aient à se positionner par rapport à ça. Et à mon avis, le vrai succès, ça serait que ça amène une partie à faire des scissions. C'est-à-dire que ceux qui sont pour l'abolition de la corrida et de la chasse, mais pas celle de la viande, sur l'argument que la chasse et la corrida, ça tue des animaux qui ne comprennent pas, mais pas. Voilà, ils vont devoir eux-mêmes clarifier cette position. Je pense qu'en fait, cette question du fait de tuer les animaux. Mais qu'on pense que c'est un problème que dans certains cas, mais pas dans tous, c'est un problème qui divise l'ensemble de toutes les associations aujourd'hui, à part quelques rares exceptions, voilà, qui vont devoir se positionner par rapport à ça. Une fois que les positions seront prises et que du coup le débat sera ouvert, voilà, c'est pour moi que je pense que c'est la première étape.
Non,
donc juste une information, enfin juste faire circuler cette idée et voir comment elle est pour l'instant, c'est ça.
Je pense que c'est la première étape. Après, ce que je veux dire aussi, c'est que c'est pas une campagne. Je pense pas qu'il va y avoir 4-5 personnes qui s'occupent de cette campagne et puis qui s'occupent de tout. Quoi. Je pense que c'est quelque chose, c'est plus de la nature, de l'objectif du mouvement dans lequel on est. Quoi. Voilà. Et qu'à un moment donné, ceux qui adhéreront pas à l'objectif comme celui-ci, je pense, comme une première grande étape, c'est-à-dire en pensant que c'est quelque chose qui est trop, quoi, qui n'est pas acceptable, qu'ils n'adhèrent même pas à cette idée même, en fait, qu'ils ne l'avaient pas, quelque part, ça va être difficile de travailler ensemble, quoi. Il va y avoir... Et qu'un autre effet, c'est par exemple, les personnes qui s'occupent de travailler sur le foie gras, la campagne foie gras, vont devoir se positionner eux-mêmes par rapport à une campagne pareille, c'est-à-dire que immédiatement, on va leur poser la question... en interne du mouvement et en externe, mais comment vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que vous soutenez que vous demandez que l'abolition du foie gras ou l'abolition du fait que tu es également général, donc de la viande, et ça va obliger tout le monde aussi à s'exprimer là-dessus, et ça crée déjà le débat qui n'existe pas aujourd'hui.
Est-ce que ça pourrait prendre la forme, ou enfin, je sais pas, de ces troubles, une espèce de soit abolissons le nord des animaux, quelque chose comme ça, qui soit mis en avant de façon claire, par exemple en vendant l'antenne de la Digifry, cet exemple-là, parce que ça paraît plus facile, plus évident, parce que les gens qui sont derrière la Digifry, a priori, ne peuvent pas être en désaccord avec ce mouvement-là, donc quelque chose qui puisse être. Voilà, je dis ça très soft, mais ça paraît plus évident que le mot. Et ça puisse être quelque chose de plus rendre, par exemple, la Digifry, un événement plus visible, plus d'extérieur. Parce que. Je pense personnellement qu'il y a un travail à faire sur ce qu'on dit dans la Digifry, en termes de slogans, de banderoles et d'espèces de travail de clarification. Parce que quand je vois par exemple les actions hôpitales, à quel point c'est clair et c'est accessible pour les gens qui regardent passer la campagne hôpitale, et à quel point on paraît. Ça peut paraître confus quand on regarde la Digifry, bon après c'est une question d'organisation de choix et il ne faut pas qu'on se transforme en piqueur, hein, c'est pas ça l'idée. Et d'avoir ce genre d'action-là, travailler pareil sur des slogans, réfléchir à comment refaire des slogans là-dessus, ça pourrait être quelque chose dans ce coup-là, à mon avis.
Mais là, j'ai même pas tellement envie de te répondre, moi.
Non, mais ce que je veux dire, c'est pour en discuter collectivement, hein, c'est pas forcément à toi de me répondre, effectivement.
Je
sais
pas. Je pense que ça pose le problème de rapport avec la Digifry, effectivement.
Bah, et puis, je pense que sur la Digifry, une autre marque un petit peu détachée, c'est aussi peut-être. Je sais pas dans quelle mesure c'est possible à réfléchir sur le parcours. Parce que j'allais dire que les trois quarts de la marche qu'on a faite étaient quasi inutiles, entre guillemets, en termes de visibilité.
Voilà. Thank you.